Donc Jésus est monté, qu'est-ce à dire? Sinon qu'il est descendu jusqu'en bas sur la terre. Donc ça, c'est le sacerdoce de Jésus, donc qui est du ciel, qui est sur la terre en partageant notre humanité pécheresse. Donc c'est le pont, le médiateur entre Dieu et les hommes, l'accès nouveau qui est ouvert, celui qui est descendu et celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et catéchètes, afin de mettre les saints, ça veut dire les baptisés, en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Vous voyez, donc ce corps sacerdotal dont nous sommes tous les membres, qui ont des fonctions différenciées, il est en train de se construire à travers toute l'histoire, à travers les siècles et à travers toutes les cultures de l'humanité. Donc ce sacerdoce du Christ, en fait, engendre un peuple sacerdotal où chacun, selon ses charismes et sa mission, reçoit une place particulière, mais où, quoi qu'il en soit, chacun a une place unique parce que chacun a une histoire unique. J'allais dire unique et nécessaire. Ainsi conclut le Père Vanois dont je me suis inspiré. Je tiendrai à votre disposition la prochaine fois, je les ai oubliés, c'est idiot, un article de théologie du Père Vanois. Le Père Vanois est le grand spécialiste du sacerdoce, il doit avoir 100 ans maintenant. C'est lui qui a traduit l'Épître aux Hébreux. Il a été pendant 50 ans directeur de l'école biblique de Rome. Enfin, c'est un éminent chercheur, une référence absolue en matière de sacerdotale. Et donc, il a fait un article. J'ai eu la chance de le rencontrer deux fois, pas mal, discuter ensemble. C'était passionnant. Et il m'a dit, écoute Arnaud, tout ce que j'ai pu écrire dans mes différents bouquins, tout est dans un article. Et donc, je l'ai bien sûr récupéré, dupliqué, donc j'en ai un stock chez moi. Et donc, ceux qui le veulent, je le donnerai la prochaine fois. Et c'est un travail universitaire, mais c'est plein de références bibliques et c'est très très profond. Donc, ça permettrait, pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette question-là, d'avancer. Donc, il dit ceci pour conclure. Au sacerdoce réel du Christ correspond donc le sacerdoce réel de tous les chrétiens, invités à s'approcher de Dieu par leur vie concrète. Donc, ils s'approchent de Dieu par leur vie concrète en engendrant un peuple sacerdotal où différentes fonctions se mettent en place et où la fonction apostolique a une place tout à fait particulière. Et donc là, je vais parler du sacerdoce ministériel. Parce qu'après avoir parlé du sacerdoce baptismal, comme j'en ai parlé, on peut se dire très vite, ben, finalement, alors là, si c'est tout ça, à quoi ça sert les prêtres? Parce qu'on n'a pas besoin de prêtres pour vivre notre vie et pour l'offrir à Dieu. Eh bien, là est le piège. Parce que qui sommes-nous pour être à la place du Christ? Je veux dire, si notre vie, qui est traversée par toutes sortes de choses qui ne sont pas très divines, devient un acte sacerdotal pour le salut de toute l'humanité, c'est certainement pas à cause de nous ni grâce à nous. C'est à cause du Christ, et de sa passion et de sa résurrection. C'est lui l'unique prêtre. Et si nous pouvons faire de notre vie un acte d'amour, un acte sacerdotal d'offrande à Dieu pour la joie, pour le salut de tous les hommes, c'est parce que nous l'offrons dans le Christ, vraiment. Et donc le Christ a choisi la voie apostolique pour aider permettre aux hommes d'être certains que le sacerdoce qu'ils exercent est du Christ, qu'ils le reçoivent vraiment, tout entier. Ce que je suis comme prêtre, je le reçois tout entier du Christ, et je ne l'exerce, je ne le fais que dans le Christ. Et je dirais existentiellement, très concrètement, que en lui. Et celui qui va me permettre de le vivre ainsi, c'est-à-dire du coup de sortir de mes illusions ou de mon orgueil, on pourrait dire, eh bien, c'est le prêtre ministre. Son job, il y en a deux, un de ses jobs, qui sont liés au sacerdoce, à son attestature. Le premier job, c'est d'être sacrement de l'unique médiation du Christ. Jésus, par sa passion et sa résurrection, est le seul pont, le seul médiateur, le seul accès, exclusivement, nous qui sommes nous. Et donc le prêtre est le sacrement de cette unique médiation. C'est-à-dire qu'il en est le signe efficace. Alors comment ça va se faire très concrètement? Donc là, le Concile nous en parle aussi, avec cette phrase un peu sibylline, qui vous a peut-être paru un peu étrange, ou peut-être pas, j'en sais rien. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, bon, ça on verra ça après, concourt le foyer du lien, et exerce leur sacerdoce par la réception des sacrements. Qu'est-ce que ça veut dire, exercer mon sacerdoce par la réception des sacrements? Ça paraît bizarre, ça paraît très passif, je dirais.
Voilà, exactement.
Oui, exactement. Alors ça dépend tout, ça dépend comment on vit le sacrement, justement. Et tout est là. Si on le vit de façon passive, le sacrement, effectivement, c'est passif. Mais c'est pas fait pour ça, le sacrement. Donc, et ça, je vais un petit peu avancer là-dessus avec vous. Donc, exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière, l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, le renoncement et leur charité effective. Alors, je vais m'arrêter d'abord sur le sacrement, parce que, évidemment, là, il y a un point très important. Alors, là, je vous ai dit le 10, il y a ensuite le 11 dans le Concile, qui reprend ça et qui reprend tous les sacrements les uns après les autres pour montrer comment le baptisé exerce son sacerdoce en recevant ses sacrements. Donc je vous invite aussi à le regarder, mais je ne voulais pas le mettre en plus, c'était déjà bien assez chargé comme ça. Alors, c'est tout simple. Quand vous êtes à la messe, bien, il y a différentes manières d'être à la messe, précisément. De façon très passive ou de façon extrêmement active. Mais celui qui vous permet, si vous êtes actif, celui qui vous permet d'agir, c'est vous qui agissez, bien sûr, vous pouvez ne pas agir, mais si vous voulez agir, celui qui vous permet d'agir, c'est le Christ qui exerce sa liturgie, c'est sa liturgie à lui, c'est pas notre liturgie, c'est pas nous qui bâtissons notre liturgie, c'est la liturgie du Christ, c'est son acte, dans lequel vous entrez. Et le Christ et le prêtre, le ministre, en est le signe efficace, c'est-à-dire c'est le gars qui est derrière l'autel et qui fait les gestes et les prières qu'il faut pour que ce sacerdoce, cet acte sacramentel de l'Eucharistie, se fasse avec vous. Vous, le Christ attend de vous, et le Concile le dit, une participation active. Cette participation active, c'est pas bien sûr de danser la samba, enfin, bien sûr c'est chanter, c'est répondre, ça va de soi, mais c'est surtout une participation active intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans la tête et dans le cœur, qu'est-ce que je veux vraiment à l'Eucharistie, au fond de moi, je veux quoi, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux pendant la messe, est-ce que j'attends que ça se passe, est-ce que je me fais un petit commentaire de ce que le prêtre vient dire, est-ce que je sais pas quoi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, voilà, c'est ça le fond. Alors, évidemment, vous comprenez à travers tout ce que je vous ai dit avant, que là, dans l'Eucharistie, c'est toute votre vie, tout ce que vous êtes, tout ce que vous portez, de prière, de lien avec les uns et les autres, vos familles, tous les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez, c'est tout ce que vous portez dans votre cœur, vos pensées, c'est tout ça qui peut s'offrir vraiment. Seigneur, je suis là avec tout ce que je suis, et je t'amène tout ce que je suis. Et je veux, par ton sacerdoce à toi, Seigneur, faire de cette vie, par la lumière que tu y apportes, un lieu de ta présence. Voilà. Et ça, c'est possible parce que vous avez le ministre qui pose cet acte. Et vous, il vous reste à faire l'essentiel, c'est-à-dire être hyperactif intérieurement. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. D'ailleurs, personne ne peut en juger de l'extérieur. J'ai vu combien de fois les enfants jouer, faire des trucs pendant la messe, et puis en fait, ils étaient extrêmement présents. Donc, en tout cas, pour les enfants, c'est très difficile de le voir. Pour les adultes, c'est peut-être plus lisible, mais ça dépend. Mais enfin, en tout cas, jamais se permettre de juger qui que ce soit. Là-dessus, en tout cas, c'est trop intime. Mais voilà, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes forts, si vous voulez, parce que vous recevez l'Eucharistie des mains d'un autre. Il y a quand même une altérité, si vous voulez. Vous recevez votre sacerdoce, le signe de recevoir la communion des mains d'un autre, c'est le signe que vous recevez vraiment ce sacerdoce. C'est pas vous qui l'avez bâti. C'est le Christ, par sa mort et sa résurrection, c'est lui qui meurt sur la croix, c'est pas vous. Et c'est pas vos souffrances qui vont sauver le monde, c'est les souffrances du Christ qui sauvent le monde. C'est lui qui souffre et meurt sur la croix. Personne ne peut faire ça, ou un fou peut prendre pour être comme ça. Ou alors, il peut être saisi par le Christ lui-même. Ça, c'est une autre affaire, bien sûr. Il faut bien se garder de jouer à ça par nos propres forces. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas. C'est le Christ qui souffre et qui... Donc, finalement, je reçois ma vie d'un autre. Alors, on peut dire, ah, bah oui, mais... j'aurais préféré ne pas le recevoir, même de Jésus, mais je ne sais pas quoi, le faire par moi-même. Ou... Bon. Mais en fait, c'est se tromper beaucoup sur l'identité même de Jésus et la façon dont il a vécu son propre sacerdoce, car son sacerdoce, sa vie elle-même, il la reçoit du Père. Et il le dit sur tous les tons. Il le dit, je ne fais rien, je ne dis rien en dehors de ce que j'entends et vois d'auprès du Père dans l'Esprit Saint, dans Saint Jean. Et il le fait comprendre tout le temps dans l'Évangile, en se référant notamment, justement, à l'Ancien Testament et à la parole du Père. Partout, il dit, c'est conformément aux Écritures, dans l'obéissance au Père. Tout le temps, et jusque dans le sommet, dans sa passion, précisément, il la vit dans l'obéissance au Père. Père, je ne veux pas boire cette coupe, mais si telle est ta volonté, je le veux. Donc, il reçoit vraiment toute sa vie, et au plus haut de sa vie, sa passion, du Père. C'est pas lui qui le fait. C'est pas un acte d'héroïsme de Jésus. C'est un acte d'obéissance filiale de Jésus, la passion. Et donc, en entrant nous-mêmes dans cette obéissance filiale, en recevant notre sacerdoce de Jésus, nous vivons ce que Jésus a vécu lui-même par rapport au Père. Nous vivons cela vraiment par rapport à Jésus, et donc par lui au Père, et comme Jésus l'a vécu vraiment en recevant sa vie et son sacerdoce du Père. On est vraiment dans le sacerdoce de Jésus en le recevant d'un autre. Et ça, c'est le prêtre ministre qui le permet, qui en est vraiment le signe efficace. Refuser dans la foi catholique, hein, refuser la médiation sacramentelle, c'est refuser de recevoir d'un autre ce que je suis. Et de le recevoir de mains humaines. Parce que non, moi je suis en lien direct avec Dieu, je reçois tout de Dieu. Voilà, donc là, je n'ai pas besoin de médiation humaine. Le problème, c'est que Jésus, il s'est fait homme. Et il s'est donné dans l'humanité. Et donc ce sacerdoce que vous recevez, que nous recevons de Jésus, nous le recevons par des mains humaines. Parce que c'est le chemin qu'a choisi Jésus, qu'a choisi le Verbe. Il a choisi l'incarnation. Refuser la médiation sacramentelle, finalement, c'est refuser l'incarnation. Et donc, c'est refuser Jésus dans son humanité. Et de façon existentielle, oui. Parce qu'on peut l'accepter de façon très théorique, ça c'est jamais trop gênant, mais quand il s'agit de recevoir des mains d'un autre le corps du Christ, ou des mains d'un autre le pardon, par le sacrement du pardon, alors là, ça devient existentiel, ça devient vraiment réel. Et donc c'est pour que cela soit vécu de façon existentielle, je pense que le Seigneur a inventé, si j'ose dire, j'explose complètement les horaires là, a inventé le sacerdoce ministériel. Je terminerai, parce qu'il faut que je dise ça aussi, que ainsi vous comprenez que le ministre, il est fait pour que le chrétien soit prêtre. Je suis prêtre pour que vous soyez prêtre. Je n'ai pas d'autre but que ça. Mon but, c'est que vous soyez prêtre. Et vous, votre but, comme prêtre, c'est d'offrir au monde, à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, à tous ceux qui sont autour de vous, un chemin vers Dieu. Ils ne peuvent pas l'être en eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas chrétiens baptisés, mais ils peuvent l'être par vous. C'est ça votre job. Partout dans le monde. Moi, je ne suis pas dans telle entreprise, je ne suis pas là où vous êtes. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'intention de Jésus. L'intention de Jésus, c'est que ce soit vous qui soyez sa présence sacerdotale là où vous êtes. Ça, c'est très important. Alors, le deuxième job du ministre, c'est d'être le sacrement de l'unité, de la construction et de l'unité du corps dans son unité. Il est le principe sacramentel de l'unité. Alors ça vise l'évêque d'abord, et puis localement le curé, qui est le principe de l'unité de la croissance du corps dans l'unité. Voilà, je m'arrête là, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais j'ai déjà largement dépassé. Dérapé, mais enfin bon, voilà. Gardons-nous néanmoins un temps d'échange parce que sur ce sujet si sensible, c'est important. Alors, Marie-Françoise. Donc, c'est pas des questions sur le texte ou sur mon topo.
Alors,
ou sur
c'est autre chose. Éphésiens 2, le sacerdoce royal, ouais. Repris d'ailleurs dans le texte du Vatican II. Mm-hmm. En fait, tout à l'heure, tu as lu une traduction un petit peu différente.
Mm-hmm. Oui. Mais ça, c'est la traduction liturgique que vous avez. Et moi, j'ai pris la TOB.
Et pour moi, ça ne veut rien dire.
Alors, attends, précise donc.
Sacerdoce royal, je ne vois pas parce que. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on met l'adjectif royal ?
Ouais.
Enfin, ça veut dire quoi ?
Ouais. Alors, ça, c'est tout un sujet. Royal, ça renvoie à la royauté du Christ, évidemment. Et précisément, le Christ est roi sur la croix. C'est là qu'il est roi. Le roi des Juifs, il est sur la croix. Donc, en fait, quand on comprend comme ça la royauté, du coup, on voit bien que ça va bien avec le sacerdoce. Mais c'est sûr que c'est pas le 14.
D'accord, mais ça concerne pas... Enfin, c'est le Christ.
Oui.
Mais moi... Enfin, mon sacerdoce à moi, il n'est pas royal.
Mais si, parce que justement, il est royal, parce qu'il est lié à la passion de Jésus, parce que c'est par la passion du Christ que toute notre vie, jusque dans ses replis les plus obscurs, devient la matière, le lieu de ce sacrifice, de cette offrande, qui fait que ma vie, quelle qu'elle soit, peut devenir une vraie présence du Christ, et donc de Dieu, au milieu du monde. Comme chrétien, je ne suis pas une sorte de parfait moral ou selon des codes pour dire aux autres ben voilà, faites comme nous, comme ça vous serez aussi parfait que nous. Parce que je donne la soupe au secours populaire ou je ne sais pas quoi, et donc voilà, je suis bien, et faites comme moi. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'était un pauvre type, moi aussi, et ça n'empêche pas d'aller à Dieu. Et en allant à Dieu, on est transformé, et on grandit, et on est plus libre. Et on peut agir. Et donc décider un jour d'aller à la soupe populaire, j'en sais rien. Ça boucle. Vous voyez, mais c'est pas par l'acte bon qu'on est sauvé, c'est par l'acte du Christ qui nous rend bon et qu'on peut poser ses actes de bonté. Oui.
Dans Vatican II. Dans Vatican II, on nous dit qu'on doit s'offrir en victime vivante. Si on part du principe que Dieu est amour, est-ce que il n'y a pas une petite confusion ? Qu'on ait une vie avec des sacrifices, bien sûr, mais victime vivante, est-ce que c'est pas un peu doloriste ? Est-ce que il y a une question de vocabulaire là que moi qui me dérange et j'étais pas seul dans.
Ben, c'est très simple. Vivante, ça veut dire quoi ? C'est la vie de Dieu. Précisément, tu dis que Dieu est amour, c'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que Dieu est amour, c'est pas, comme je l'ai dit souvent ici, une puissance d'amour, une sorte de réserve d'amour. C'est l'amour de trois personnes. du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est une communion d'amour. Comment Jésus aime le Père ? Comment est-il aimé du Père ? En entrant dans l'obéissance au Père. Il fait la volonté du Père, non pas sa volonté. C'est ça l'amour, en fait. C'est cette espèce de dépendance dans l'amour. Je vis par toi et tu vis par moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc, pour le Christ, jusqu'à la croix, puisque ceux que le Père aime, ce sont les hommes qui sont prisonniers de la mort et du péché et de la douleur, précisément. Et donc, lui, comme dit Paul, lui qui était le Verbe éternel, dans la pureté et la joie et tout ce que vous voulez, par obéissance au Père, par amour du Père, s'unit aux crapules que nous sommes.
Ouais, mais nous, on n'est pas Jésus, on n'est pas destiné à mourir sur une croix. Dieu veut notre bien.
Oui, bien sûr.
Donc pourquoi ce mot victime ?
Parce que, précisément, la victime ici, c'est Jésus. C'est lui la victime dans l'affaire. C'est lui la victime innocente.
Il s'adresse à nous.
Oui, bien sûr. Parce que, justement, si le Christ meurt sur la croix, c'est pour nous rejoindre là où nous-mêmes nous mourons. Si le Christ meurt sur la croix, c'est pas parce qu'il a un problème avec lui-même. Il n'a pas de problème. Il est le Fils éternel du Père. Et s'il meurt sur la croix, c'est pour nous rejoindre, nous, là où nous sommes. Là où, le jour venu, ben, tu seras en train de mourir en réanimation à l'hôpital. Et le Christ sera là. C'est ça le point. C'est que le Christ meurt pour nous rejoindre là où on meurt. Alors là où on meurt physiquement à notre dernier jour, mais surtout là où on meurt spirituellement quand on pêche. C'est-à-dire que le jour où on est pécheur, le Christ est là. Le Christ n'est jamais plus près de nous que quand on pêche. Jamais plus près de nous quand on pêche, quel que soit le péché. Jamais plus près de nous. C'est ça le miracle de la croix. C'est ça la victime. Et donc, bien sûr que c'est nous qui sommes victimes. Mais nous sommes victimes de quoi ? Nous sommes victimes du mal, victimes du péché et du mal. Et Jésus se fait victime pour être proche de nous qui sommes victimes. C'est vraiment ça. Et nous ouvrir un chemin là où il n'y en a plus. Voilà. Est-ce que ça te va ou ça te...
Tu...
Ah oui. Parce que quelque part, je.
Est-ce qu'on rejoint pas, en fait, dans sa croix, en quelque sorte, on rejoint, en quelque sorte,
parce que... dans son obéissance.
Dans
quel sens, oui, bien sûr, exactement, ça c'est vrai.
Est-ce qu'on rejoint pas Christ dans sa croix lorsque l'on s'offre par un sacrifice quelconque, par manger trop de gâteaux?
Non, c'est pas trop ça. Enfin, c'est plutôt le. Je pense que là, l'autre chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que on s'offre en victime, justement comme le Christ s'offre en victime, en renonçant à notre volonté propre pour entrer dans la volonté d'un autre, par amour. Et ça, quiconque connaît la vie de famille et la vie conjugale, sait très bien que c'est la clé de l'amour. C'est renoncer à sa volonté propre pour entrer par amour dans la volonté d'un autre. Ça, on sait très bien que sinon... C'est un amour égoïste à deux, qui peut très bien marcher un certain temps. Mais c'est ça, mais là, il y a victime. Pourquoi ? Parce que là, il y a renoncement. Je me renonce à moi-même par l'amour, dans l'amour. Et du coup, je me sauve, et du coup, je grandis. C'est ça la merveille, c'est que je renonce, mais tout en renonçant, en fait, je me sauve et je grandis, parce que je me découvre profondément fait pour ça, pour ce don d'amour. Pour aller jusque-là dans l'amour. Voilà, je me découvre et me sauve en même temps. Et ça, c'est la nature même de l'amour.
Je voulais prolonger la question, là, parce que je trouve qu'il y a une certaine ambiguïté de compréhension dans ce que tu peux dire. Pour moi, tu vois, tu dis ce geste fou du Christ qui s'offre sur la croix. Ce sont les souffrances du Christ qui sauvent le monde.
Ben oui.
La passion est un acte d'obéissance filiale. Oui. Il l'a. Voilà. Et moi, je ne le comprends pas comme un acte d'obéissance au moment même de la passion. Parce qu'au moment même de la passion,
c'est pas Dieu qui a voulu que son fils soit mis en croix. C'est les hommes. Alors, laisse-moi finir. Ouais. C'est les hommes qui ont mis Jésus en croix. Mmh. Et là où Jésus s'est offert, comme l'exemple que tu donnes quand tu parles de la vie de famille, là où Jésus s'est offert, c'est pas au moment de sa passion, si cette coupe peut passer loin de moi, mais là où il s'est offert, c'est dans sa vie, c'est dans son incarnation. Là où il s'est offert, c'est à partir du jour de Noël. Là où il s'est offert, c'est lorsqu'il a conduit son ministère, en sachant, comme d'autres, je ne sais pas moi, comme Martin Luther King, en sachant que ça ne pouvait pas bien finir, en sachant que c'était une offrande. Mais son offrande, c'est pas au moment même de la passion. Son offrande, c'est tout son ministère. Moi, je crois qu'il faut dire. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Je pense qu'il faut le dire, parce que sinon, cette compréhension doloriste,
il faut pas, par peur de dolorisme, finalement, écarter ça, parce que c'est tout un, en fait. La vie et la passion du Christ, c'est tout un. Voilà. C'est un seul acte d'obéissance au Père. Mais la passion est justement comme le sommet et comme la clé de vérité, en quelque sorte, et de révélation de ce qu'est toute la vie du Christ. Quelque part, la façon dont on meurt, c'est la façon, révèle la façon dont on vit. Eh bien, il y a ça aussi dans le Christ. C'est-à-dire, et qui est rapporté très clairement par les évangiles au moment justement de l'agonie. Non pas ma coupe, Seigneur, mais c'est ta coupe que je reçois de toi et je l'accepte. Que ta volonté soit faite. C'est ça la clé quand même. C'est la phrase ne s'arrête pas à que cette coupe s'éloigne de moi. La phrase s'arrête à que non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est ça la clé. Et donc cette clé, justement, éclaire l'ensemble de sa vie, qui est par ailleurs dite par ailleurs. Voilà.
Non, mais il faut faire attention à l'ambiguïté, parce que ta volonté. C'est pas ta volonté qu'on me mette sur la croix. Non, ta volonté, c'est que les hommes fassent librement le mal voilà, c'est la liberté de l'homme. C'est l'homme qui met Jésus.
Non, mais Jésus sait très bien où il met les pieds, et le Père aussi.
Voilà.
Et ça, dès le départ.
Mais dès le départ.
Donc ça veut bien dire que là, il y a une volonté, dès le départ, d'obéissance qui va aller, comme tu dis d'ailleurs toi-même, jusqu'au don total.
Et ça n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham de sacrifier son fils. C'est Abraham qui a compris que le Dieu qu'il connaissait lui demandait de le faire. C'est pas Dieu qui demande le sacrifice de son fils.
Bien,
c'est sa vie.
Oui, c'est un autre sujet, mais qui demande un autre approfondissement, parce que Genèse 22, c'est un gros morceau, donc ça, je ne vais certainement pas rentrer là-dedans maintenant. Et il faut, je pense, pas aller trop vite. Ce que tu dis n'est pas faux, mais n'est pas complètement complet non plus. Enfin, en une phrase, je pense que c'est un peu difficile de raisonner Genèse 22. Mais tu as raison de faire le lien, je crois, entre les deux, entre la passion et Genèse 22, parce que justement, il y a un lien très profond. Et ça, c'est certain. Mais je ne vais pas faire ça maintenant.
Dans le même truc, enfin, dans notre petit groupe, une personne a dit que l'utilisation du mot victime. C'était quelque chose peut-être de daté. Alors, je suis à l'aise puisque ce n'est pas moi qui ai fait cette proposition. Est-ce que c'est hérétique ? Ça serait hérétique d'imaginer que ça soit daté ou pas ?
Enfin, je me pose pas ce genre de questions. C'est dans les Écritures. Il faut les comprendre comme tel.
Là, c'était le texte de.
Oui, mais c'est dans les Hébreux. C'est dans l'Épître aux Hébreux. C'est dans saint Paul. C'est partout en fait. Non, en fait, ce qu'il y a, il faut le lire avec une intelligence théologique et sans avoir peur des mots. Parce qu'évidemment, s'il y a des mots qui ont été réemployés dans d'autres contextes, et on se dit, comme ça a été réemployé dans d'autres contextes, alors on ne les utilise plus, mais le problème, c'est comme ils sont raccrochés à beaucoup de textes qui sont par derrière, alors on perd le fil, quoi. C'est un peu compliqué. Donc il faut d'emblée se dire, victime ici, c'est un terme théologique qui veut dire quelque chose, qui a un lourd pédigré, je dirais, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et j'essaie de comprendre ce que veut dire victime quand c'est Paul qui en parle, quand c'est Pierre qui en parle, quand c'est l'Évangile qui en parle, je mets un peu de côté les idées que j'avais avant, et puis j'essaie de comprendre dans les Écritures, non pas en sortant un mot comme ça, puis en disant « Ah, ah, c'est victime », mais en essayant de comprendre par le contexte du texte, et par ce que veut dire Paul, Pierre et l'Évangile, qu'est-ce que veut dire pour eux le mot « victime » voilà. Mais ça, c'est vrai de tous les mots. Notamment le mot amour, qui est ultra galvaudé, alors de façon positive, mais enfin, c'est le même problème. C'est vrai pour beaucoup d'autres mots.
Le sacrifice.
Voilà, ou le sacrifice, voilà, c'est le même mot. Alors pour nous, il est chargé de, je sais pas quoi, de phrases de la grand-mère qui m'a dit ça, je sais pas quoi, ou de mon éducation. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas facile, je comprends très bien ça, mais. Ce qu'il faut, c'est mettre ça de côté pour essayer de comprendre ce que dit le texte. Pour ça, je n'aurais cessé dans toutes les séances de vous redire, regardez ce que dit le texte, avant de plaquer sur le texte ce que, les idées, les sentiments que vous associez à ce mot. C'est toujours la même chose. Il faut le faire paisiblement, il faut le faire avec intelligence, en disant, attention, les mots piégés ou sensibles... Eh ben, ils sont piégés ou sensibles pour moi, ils ne le sont peut-être pas du tout d'ailleurs pour d'autres, ça dépend des cultures, des histoires, etc. La Bible, elle est faite pour tout le monde, pas que pour les Français. Donc, en 2019, elle est faite aussi pour tous les hommes depuis 5000 ans. Donc, il faut se départir de ça et essayer de comprendre ce que dit le texte en mettant un peu de côté des résonances immédiates que ça peut avoir dans mon histoire. Voilà. C'est pour ça que vraiment, il y a une importance... capital d'apprendre peu à peu à lire la lettre du texte, à essayer de la comprendre, à se soutenir ensemble dans cette intelligence, parce que sinon, on passe son temps à se dire ensemble « Ah, sacrifice, c'est affreux, ou c'est démodé, ou ça va pas, ou alors l'amour, c'est merveilleux », puis en fait, on s'en lasse, quoi. C'est comme la crème fraîche, au bout d'un moment, c'est bon à la première cuillère, mais à la fin du pot, on est un petit peu lourd, quoi. Et donc, on arrête la crème fraîche. C'est vraiment ça le problème. Et donc, il faut toujours... faire cet effort, et c'est un effort pour tout le monde, moi le premier, hein, vraiment, alors, d'essayer de revenir toujours à la lettre du texte.
Vous avez parlé, alors vous parliez du sacrifice tout à l'heure, et aussi de l'offrande.
Voilà, de l'offrande, oui.
Voilà. Mais,
c'est pareil, c'est toujours le même mot piégé, mais bon, il faut essayer de...
Non, mais c'est on l'accepte peut-être plus.
Oui, plus facilement.
Mais alors, dans le texte de Saint Paul, c'est sacrifice,
ouais.
Mais dans le texte du
Concile,
oui. Ouais. C'est aussi sacrifice
oui, de l'enfant,
après 20 siècles,
mais non, non, parce que, mais non, parce que justement, si vous voulez, les écritures et puis aussi les textes de fond, ils ne sont pas au gré des modes et au gré des sociétés locales, si vous voulez. Donc on entre dans une histoire. On ne fait pas de la théologie hors sol, coupée de Saint-Augustin, coupée du Concile Vatican I, ou coupée de... La théologie est un ensemble, enfin la théologie, je veux dire l'intelligence de notre foi, c'est un ensemble qui prend ses racines sur 4000 ans, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Et donc c'est la même réponse que je ferai, voilà. C'est vrai qu'on pourrait dire, comme pour les petits-enfants, on redit l'évangile avec des mots qui nous parlent et qui sont simples. Mais en fait c'est se couper de 4000 ans d'histoire, de quête spirituelle, humaine et théologique. Et en fait, les petits-enfants, peu à peu, il faut les faire entrer dans le vocabulaire qui va leur permettre d'avoir accès à cette richesse extraordinaire. Sinon, vous les coupez de cette richesse. Ça peut être bien dans un premier temps, mais voilà, faut avancer. C'était un peu mon pari avec vous, étant donné que vous êtes quand même un peu... Enfin, vous êtes plutôt du genre chrétien pratiquant, engagé, déjà pas mal formé. Et donc... Vous, plus que d'autres, il faut vous donner accès au texte, à cette richesse, sans peur, et voilà, et puis répondre, et être dans le dialogue, et avancer, je dirais, en adulte. Parce que si on ne fait pas avec vous, alors, avec qui peut-on le faire ?
Moi, c'est pas une question,
c'est un apport. Pardon, pour m'entendre moi, mais pour que les autres m'entendent.
Moi, c'est pas une question, mais c'est un apport. Il me semble que c'est important que ça soit à travers l'Esprit Saint, que chacun puisse entendre, et au travers des groupes. Parce que quand je regarde, c'est les mêmes types de questions qui sont dans les mêmes groupes. Là. Et je pense que Dieu, il intervient là où on est, dans, individuellement et en collectif, dans des, les petites unités. On est à peu près 7 ou 8 groupes là ce soir, ou 9 ou 10. Voilà.
Oui, c'est très important. Alors, bon, on ne peut pas parler de tout le temps, c'est compliqué, mais c'est vrai que tout est lié profondément. Et donc, la question de l'action de l'esprit pour comprendre la foi est évidemment capitale. Donc ça, c'est, oui, c'est vraiment important, bien sûr. Et ça devra être au cœur des fraternités Emmaüs. C'est sans doute un sujet qu'il faudra encore un peu approfondir, d'ailleurs. Parce que lire, travailler, échanger dans l'esprit, ce n'est pas seulement dire un petit chant au début, et puis après on passe à la suite. Il faut qu'il y ait aussi une intention spirituelle et collective de vouloir travailler dans l'esprit, et que ça soit concrétisé par quelque chose, quoi. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est important. Bon, on est un peu fatigué, là, il est tard. On a dépassé complètement les horaires. Voilà. Donc la prochaine fois, j'apporterai ce texte de Vanois, pour ceux qui veulent le creuser un peu. Vraiment, c'est une référence intéressante, avec surtout plein de références d'écriture, donc ça permet d'aller voir par soi-même. Et ça peut être très précieux. Et puis j'espère qu'on réabordera ce sujet-là, notamment dans les propositions qu'on va vous faire à partir du mois de février. Et la suite, on est en train de concocter des petites choses pour vous avec Gauthier.